Alors, notre troisième partie, comme je l'annonçais tout à l'heure, a pour invité Jean-Paul Chalulot. Présentation succincte, vous avez été Jean-Paul Chalulot pendant très très longtemps journaliste à l'Indépendant, votre confrère, oui, que nous saluons au passage. Vous avez pris la retraite il y a quelque temps, et puis vous avez, vous habitez Ouveillan, alors ça depuis fort longtemps, on va y revenir sur ce parcours, et vous avez déclaré sans embâche que la mairie d'Ouveillan vous intéressait, vous avez en quelque sorte déclaré une candidature pour les prochaines municipales. Donc voilà tout un programme, une déclaration qui était claire et sans embâche et sans ambiguïté que je sache. Vous ne démentez pas ?
Tout à fait.
Donc on va revenir sur toutes ces choses-là. Et à un moment où, comme le disait tout à l'heure Michel, les Français souhaiteraient davantage de gens non plus issus des partis politiques mais de la société civile, ce qui est votre cas, Jean-Paul Chalulot, ça nous a semblé d'être un très bon exemple de personne à inviter pour conclure cette saison d'une part et pour conclure un petit peu ou pour développer un peu mieux ce sujet. Donc on va peut-être commencer sur le plan historique quand même, Jean-Paul Chalulot, par le fait que vous êtes alors journaliste et ouveillanais, que les deux étant non pas parallèles mais se recoupant d'une certaine façon, vous avez eu un moment envie d'apporter quelque chose à la ville d'Ouveillan et vous lui avez apporté une manifestation qui est devenue prestigieuse, les Vendanges du Cœur. Expliquez-nous un peu la genèse de cette manifestation.
Alors les Vendanges du Cœur sont nés d'une rencontre entre Jean-Jacques Goldman, que je connaissais grâce au journalisme. Ça arrive qu'on connaît des amitiés qui durent, qui aillent au-delà du métier. Et cette rencontre a eu lieu avec les vignerons d'Ouveillan, la cave coopérative, qui était dirigée par deux personnes qui sont devenues depuis des amis, Bernard Pitié et Francis Ayad. Et il y a eu un coup de foudre. Voilà, les hommes ont proposé.
Les atomes crochus,
voilà.
Un coup de foudre, l'expression est de circonstance, en fait, entre les patrons de la cave coopérative, si je puis dire.
C'est possible. Et donc, ils se sont parlé, et en 10 minutes, les uns ont dit on va faire une cuvée, et l'autre a dit je vais faire un concert. Les Vendanges du Cœur sont nés comme ça. Effectivement, moi j'avais envie depuis longtemps de créer un événement sur le village.
Et c'était dans le sillage des Restos du Cœur quand même. Vous aviez ça en tête ou pas?
L'idée des Restos du Cœur est venue collégialement, puisqu'on a. Bon, au départ, on voulait que donner une vigne à Jean-Jacques Goldman, qui lui a dit moi je suis nanti, j'ai tout ce qu'il faut dans la vie, mais on peut la donner peut-être virtuellement à une association. Et c'est ce qu'on a fait à travers les Vendanges du Cœur, qui durent depuis 25 ans, donc maintenant, hein, et qui ont rapporté à peu près 1,5 million d'euros au resto. Nous venons de faire la 25e édition, donc à Narbonne cette fois-ci. Et donc ça a été effectivement le pied à l'étrier un petit peu d'être utile. On arrive toujours un âge dans sa vie où on se dit il faudrait quand même faire quelque chose pour les autres maintenant que la vie m'a donné pas mal de choses, et notamment des compétences aussi. C'est parti de ce principe-là, et chemin faisant, il y a à peu près un an, je me suis dit le village quand même mérite autre chose que ce qu'il montre en ce moment. Il a besoin d'être revitalisé, ce qui est normal aussi, hein. Il y a une usure.
L'usure du pouvoir, comme
voilà,
on dit, par exemple.
C'est tout à fait logique. Et donc je me suis lancé. Effectivement, le jour du printemps, j'ai choisi le jour du printemps comme un symbole. Je me suis déclaré avec une équipe qu'on est en train de terminer là, et qui est vraiment très très motivée, et qui est une équipe hors parti, effectivement, puisque là aussi, les gens viennent de tous horizons, mais les convictions politiques, on les laisse à la porte.
On va revenir en détail là-dessus, mais finalement, le choix de la date du printemps, le renouvellement, l'éclosion du renouveau, c'était fortement symbolique. Je voudrais quand même encore un tout petit point revenir sur les Restos du Cœur, parce que le fait que vous connaissiez Jean-Jacques Goldman, je crois que c'était parce que, lorsque vous étiez journaliste, vous vous intéressiez au show business, d'ailleurs, vous teniez une chronique ou des articles. Vous avez, alors peut-être que je me trompe, mais confirmez-le, Jean-Paul Chalulot, vous-même était compositeur de chansons.
Alors oui, dans l'ordre, j'avais créé, dès mon arrivée à l'Indépendant, j'avais commencé ma carrière à Perpignan, j'avais créé la rubrique Variété. Alors au début, c'était en 1980, on m'a dit, ça va servir à quoi? Et au bout d'un an, on avait fait un jeu concours, je me souviens, et on avait dit aux gens, pour gagner des disques, pour gagner un transistor à l'époque, On avait eu un sac entier de courriers. Et là, le patron du journal était venu me voir en disant, vous allez la continuer, votre rubrique, là. Et donc, j'ai effectivement rencontré beaucoup d'artistes, notamment dans les années 80. J'ai vraiment rencontré tout le panel français.
Oui, de par cette rubrique.
De par cette rubrique. Et des amitiés se sont liées, dont une avec Jean-Jacques Goldman, qui est un habitué maintenant d'Ouveillant. Voilà. Et ensuite, bon, les restos. Bon, ça c'était une évidence parce que Jean-Jacques Goldman était déjà
impliqué,
ouais. pas mal impliqué. Et l'autre question, c'était
alors vous avez, paraît-il, touché à la chansonnette.
Ah, alors oui, bon, alors là je serai un peu plus modeste sur le coup parce que effectivement je suis auteur à la SACEM. À l'époque, les plus anciens s'en souviennent, j'avais écrit pas mal de chansons pour une jeune fille qui s'appelle Fanny. Et qui avait sorti une version de L'homme à la moto, qui avait bien marché dans l'émission de Foucault, de Jean-Pierre Foucault. Donc, et puis j'ai écrit pour Virgile, qui est un artiste de chez nous, et puis quelques compositions aussi pour le groupe Californien à l'époque. Voilà.
Oui. Donc les auditeurs de Grand Sud FM ont entendu du Chalulot, puisque nous diffusons beaucoup de Virgile à ce niveau-là.
Eh ben voilà, je vous en remercie d'ailleurs, puisque les droits d'auteur courent toujours.
Alors revenons maintenant à ce déclic nouveau, donc Jean-Paul Chalulot, donc vous habitez Ouveillant depuis toujours,
en tout 30, cas,
depuis,
37 ans.
Voilà, depuis fort longtemps, donc vous avez vécu, vous êtes même en tant que journaliste, j'imagine, intéressé à la vie municipale, mais à un moment peut-être vous ressentez le besoin de passer alors peut-être de l'autre côté du miroir.
Mais c'est ça, dans ma carrière politique je n'ai pas fait que des variétés, j'ai quand même aussi...
De journaliste, pas politique. Tu n'as pas encore commencé ta carrière politique. Je te signale.
Pardon, de journaliste. Vous voyez déjà, ça y est. Dans la peau de... dans ma carrière journalistique, oui, effectivement, j'ai croisé beaucoup de politiques qui ont été inspirants. Hein. Aussi, hein, on peut parler d'Hubert Mouly, qui a été quand même quelqu'un qui a beaucoup compté pour la ville et que j'ai côtoyé longtemps.
Forcément, oui.
Mais oui, on peut parler de gens comme Roland Courteau aussi, qui est quelqu'un d'engagé
depuis des décennies
sur la durée et qui ne déroge jamais à ses engagements. Voilà, et puis tout un tas de maires aussi, parce que pour être maire, il faut être quand même, vous le soulignez tout à l'heure, l'engagement, c'est quand même pas neutre. Et il faut y aller, quoi.
Hein. C'est pas rien d'être maire. Hein.
Voilà. Donc, oui, j'ai regardé, encore maintenant, bon, vous disiez que je suis à la retraite, pas encore, je serai à la retraite officiellement l'année prochaine, ce qui tombe très bien, mais je fais du conseil en communication, notamment à Gruissan, et à Gruissan, j'ai quelqu'un sous les yeux qui est quand même aussi inspirant, qui s'appelle Codorniou, Didier Codorniou, et je vois comment fonctionne une mairie, et depuis 2 ans, c'est vrai que là aussi, ça a nourri un petit peu ma réflexion.
Bref, tu faisais aussi un stage d'apprenti maire à la mairie de Gruissan, en quelque sorte.
Sans le savoir au début, puisque j'étais pas du tout programmé pour ça. Mais là, j'ai vraiment envie. Et puis je vois qu'il y a des gens autour, j'agrège des gens autour qui sont vraiment extraordinaires, qui ont pour la plupart, on fait carrière ou n'ont plus rien à prouver, si ce n'est que d'être...
D'un engagement public.
Voilà, d'être utile dans l'intérêt général.
Et alors, quand on se présente à une mairie, ben forcément, il y avait un maire avant, il y a toujours d'ailleurs sur Ouveillant un maire qui a fait un certain nombre de mandats et qui, apparemment, si, enfin, je peux me tromper, mais vous me le direz, qui semblait bien occuper la place et la fonction pendant un certain temps, et puis qui, depuis quelques mois ou quelques temps, pour être un peu plus vague, semble, allez, je dirais, presque disparu des écrans radar. Est-ce que c'est ça qui vous a un peu inspiré sur Ouveillant ?
Alors il y a ce point aussi, parce que vous parliez d'écran radar et de disparition. Au Grand Narbonne, par exemple, Ouveillant n'existe plus beaucoup.
Par exemple,
il faut qu'Ouveillant soit vraiment au cœur du Grand Narbonne et joue son rôle de village important, parce que Ouveillant, c'est pratiquement 2400 habitants. C'est la première couronne narbonnaise. Après Cuxac et Coursan, il y a Salel aussi qui maintenant est en fort développement. Donc là, il y a une place à jouer, oui, effectivement. Et le maire sortant, lui, ne souhaite pas se représenter. Il a annoncé à plusieurs reprises que ce soit dans des réunions ou en aparté. Donc il ne repart pas. Est-ce que c'est pour ça qu'il s'est un petit peu désintéressé? Bon, en fin de cycle, je ne sais pas.
Ou l'usure du pouvoir, comme vous disiez tout à l'heure.
Peut-être aussi, mais vous savez, je crois qu'il est en place depuis 3 mandats. C'est beaucoup.
C'est beaucoup.
Et bon, il a œuvré pour le village, c'est très bien. Nous on est prêts à investir cette page blanche qui s'ouvre, qui s'annonce, ce chapitre qui reste à écrire et ouvrant à des tas d'atouts pour justement rayonner.
Alors justement, ça reste à écrire. On disait tout à l'heure que les Français et les Ouvéianais probablement aspirent à du renouvellement, d'une part. C'est un peu haro sur les partis politiques, on n'en veut pas. Bon, ça correspond à votre profil. Maintenant, on a fait allusion aussi à l'expérience ou au manque d'expérience. Et bon, ça n'est, j'imagine, Jean-Pierre Chalulot, que aller voir travailler Didier Codorniou, c'était utile, mais pas suffisant pour savoir ce que c'est véritablement la notion de maire. Donc vous allez vous entourer, j'imagine, aussi de gens qui ont des expériences politiques. Allez, n'ayons pas peur du mot.
Alors il y a quelques personnes qui ont des expériences politiques, mais très légères, j'allais dire. Et puis il y a surtout beaucoup de compétences dans des domaines très précis, que ce soit
professionnel,
que ce soit dans la finance, que ce soit dans la chose publique. J'ai par exemple un ancien préfet qui fait partie de mon équipe. Voilà, ce sont des gens sur qui on peut s'appuyer et au contact desquels je vais apprendre aussi. Voilà. Donc et puis l'important, c'est de travailler en équipe. Ça, c'est vraiment une notion à laquelle je tiens parce que on va passer à Ouvéa, on va passer du jeu au nous parce qu'on va travailler en équipe et parce qu'aussi on va solliciter ça. Michel Santo l'a évoqué tout à l'heure. On va s'appuyer beaucoup sur la démocratie participative avec des comités de quartier, avec dès fin septembre une consultation de toute la population pour savoir ce qu'elle attend de ses élus. On va essayer d'élargir ce cercle de réflexion pour agir.
Et alors, oui, Michel, oui,
on a vu. Oui, ça me fait remarquer que, bon, certes, la compétence, entre guillemets, technique, en fait, des élus est importante, mais elle n'est pas déterminante. En fait, les élus ne sont pas là pour gérer au quotidien une administration communale.
Ils ont toujours des DGS.
Voilà ce que j'allais dire. Donc, la première qualité de maire, c'est de s'entourer, effectivement, de bons collaborateurs professionnels, quoi. Des gens qui savent faire tourner une machine, quoi. Hein. Après, effectivement, les politiques, eux, bon, orientation, en fait, prise de décision, etc., quoi. Hein. Mais c'est d'abord ça, quoi. Hein, ouais. Une bonne équipe administrative.
Alors, Jean-Paul Chalulot, pardon. Donc, là, forcément, vous avez en tête déjà une esquisse de programme. On ne vous demande pas peut-être de trahir des secrets, mais peut-être de nous livrer quand même quelques pistes que les Ouvéanais seront ravis d'entendre.
Alors, les pistes sont nombreuses. On a un cœur de village qui se meurt. Ça, c'est une constante, hélas, dans pas mal de communes. Donc là, on va essayer d'œuvrer là-dessus. Il y a aussi la qualité.
Pouvez-vous être plus précis là-dessus? Quoi faire dans un cœur de village qui se meurt?
Alors, exemple très précis, à Ouvéa, nous n'avons pas de restaurant. Nous devons être une des rares communes où il n'y a pas de restaurant. Donc, il y a une pizzeria, il y a un point aussi de cuisine vietnamienne, mais il n'y a pas de restaurant à proprement parler. Il y a un bar mais il pourrait y en avoir deux et de manière plus étendue.
Et alors, comment voyez-vous le rôle d'une mairie dans ce cas-là?
Mais c'est de dynamiser, d'aider, d'accompagner.
Mais par exemple, faut-il acheter un local et l'offrir en location à quelqu'un ou...
Pourquoi pas? Il y a pas mal de villages qui l'ont fait.
Hein, enfin, le grand restaurant de Fonjoncourt, en fait, hein, au départ, il a démarré comme ça.
Tout à fait.
C'est-à-dire que c'est la commune et le département qui a mis en place un restaurant relais, si pour utiliser une image qui reprend celle d'usines relais, c'est-à-dire des usines financées par les collectivités, qui ensuite font payer un loyer à celui qui...
Les grands buffets, c'est un peu ça aussi. Ce sont des locaux qui appartiennent au public.
Oui. Alors, il y a aussi, partant de cette équipe à Mala, il y a aussi l'attractivité. Évidemment, nous avons un patrimoine, mais il faut le mettre en scène un petit peu plus.
Allez voir cette église, elle est magnifique.
L'église Saint-Jean est magnifique, oui. Donc, ça, tout ça, c'est et là, je vous rejoins, Michel, c'est simplement un rôle d'animation, là, puisque il y a ce patrimoine-là. Après, il y a d'autres, évidemment, d'autres équipements. Au niveau de la sécurité, par exemple, on a besoin sans doute d'un radar pédagogique pour la traversée, parce qu'il y a des gens encore qui utilisent la traversée comme une piste d'automobile. On a la vidéoprotection, qu'on voudrait mettre en place au moins aux entrées et sorties. Au niveau de l'environnement, on aimerait bien équiper certains bâtiments municipaux de photovoltaïque. Voilà. Et puis, il y a aussi nos forces vives, que ce soit tout le tissu associatif, et il est intéressant. Évidemment, le rugby qui a été champion de France il y a quelques jours, mais il y a aussi d'autres, la MJC, Louvain, Nîmes, tout. Il y a vraiment des forces vives au village qu'il faut encourager.
C'est-à-dire que vous sentez un petit peu poussiéreuse ou pas suffisamment développée?
Non, mais on peut très bien les sublimer, on peut très bien les faire grandir, parce que il y a la viticulture aussi, évidemment. Évidemment, puisque
je suis
marié à la cave, entre guillemets, depuis 25 ans. Mais c'est vrai, il y a des producteurs indépendants aussi. Il y a un des plus gros domaines viticoles de la région, puisque la cave d'Ouvéan produit quand même pratiquement 120 000 hectos. Donc, c'est pas mal. Donc, il y a toutes ces forces vives, oui, à accompagner.
La cave d'Ouvéan Narbonne, d'ailleurs.
Oui, c'est la cave Ouvéan Narbonne, Salelle et un peu Vinassant.
Il faut le rappeler, parce que Narbonne est mariée, vous parlez de mariage, avec la cave d'Ouvéan.
Tout à fait. Donc voilà, il y a tout ça à mettre en musique. Et bon, après, on a d'autres projets, évidemment, que je ne dévoilerai pas ici, mais vraiment, il y a de quoi faire, hein, Ouvéan.
Vous viendrez
nous voir.
C'est déjà tout un programme. Parmi le patrimoine, vous parliez de l'église, mais il y a aussi cette fameuse grange cistercienne Foncalvi, qui est prestigieuse parce que c'est une ancienne possession de Fonfroide. Et il s'y fait, par exemple, un certain nombre de spectacles estivaux. Est-ce que c'est le genre de choses sur laquelle vous allez pousser, si je puis dire?
Mais ça pousse tout seul, j'allais dire, parce que là, il y a aussi des expositions maintenant à Foncalvi. Qui se tiennent. Il y a donc un spectacle qui va se dérouler au mois d'août, sur une dizaine de jours. Mais il y a d'autres endroits aussi. Il y a d'autres endroits. Et là, pour l'instant, on n'en parle pas. Mais il y a une association qui est en train de naître à Ouvéan pour justement proposer d'autres spectacles. Donc on voit qu'il y a une dynamique qui est sous-jacente, mais qu'il faut réveiller et accompagner.
Et alors, une question qu'on pose très souvent. Au maire en place, donc on peut la placer, la poser également à quelqu'un qui un jour sera probablement maire d'Ouvéan, c'est la volonté de développement de sa commune. Certains ont une volonté de construire des lotissements, d'agrandir la population, d'autres au contraire d'une sorte de statu quo. Quel serait vous et votre équipe, Jean-Paul Chalulot, votre politique en la matière?
Alors là, justement, c'est une position médiane. C'est tout simplement parce que là, alors, précisons quand même que le rôle du, ou plutôt la tâche qui a incombé au dernier maire, c'était de développer Ouvéan. Donc il y a tout un quartier qui s'appelle la ZAC du Couchant.
Il y a un projet qui est né.
Il y a même une deuxième tranche qui doit arriver. Donc, je crois qu'il faut le faire très progressivement, parce que parallèlement, nous avons quand même entre 70 et 80 maisons dans le village qui sont à la vente.
Et c'est dommage. Dans le vieux village.
Et c'est dommage, parce qu'il y a vraiment de très très belles maisons. Donc je crois qu'il faut ménager la chèvre et le chou, là. Il ne faut pas vraiment préconiser un développement à tout va, mais aussi essayer de loger les gens qui veulent venir à Ouvéan, parce qu'Ouvéan a une situation quand même assez privilégiée. On est à 63 mètres de hauteur. Donc le jour où on sera inondé, l'eau arrivera en haut de Saint-Just. On a le temps.
Bon, donc pour l'an 2100, vous êtes tranquille.
On est tranquille. Donc c'est un village assez attractif à 12 km de Narbonne. Donc je sais que j'avais discuté avec quelqu'un qui habitait du côté de Roche-Grise et qui me disait que pour aller à son travail, il mettait davantage de temps de là que d'Ouvéan.
Ça c'est possible.
Vous voyez, donc on a quand même là vraiment une attractivité immobilière aussi, mais à laquelle il faut répondre, parce que il y a des gens qui, avant d'acheter, font un tour en ville, au village et voient un certain nombre de choses qui ne bougent pas, se renseignent un petit peu et après déclinent. Ils disent non, finalement, on ne vient pas, on va aller ailleurs.
Voilà. Mais donc si je comprends,
si vous permettez, monsieur le futur maire, en fait, évitez quand même, en fait, l'étalement urbain à la manière de Rocherise et compagnie. Je veux dire, on n'est plus dans cette configuration, en fait, historique-là. Quoi.
Tout à fait.
Rien n'est plus terrible quand je visite les villages de notre région, de voir tous ces lotissements qui encerclent, en fait, les vieux villages et qui sont d'une laideur épouvantable. Oui.
Après, le travail à faire avec ces nouveaux lotissements, c'est de les amener et de faire qu'il y ait un vivre ensemble.
Oui, qu'il n'y ait pas des cités, ce qu'on appelle les
voilà,
cités d'Artois.
Voilà, et puis bon, qu'il n'y ait pas d'ostracisme quelconque qui s'installe. Quoi. Si on fait une animation au cœur du village, il est évident qu'il y aura une déclinaison dans les deux quartiers qui sont un petit peu excentrés au Véan.
Voilà.
Il faut que tout le monde soit emprunt. Et puis, vous me parliez de projets. Il y aura sûrement un ou deux projets liés à l'histoire d'Ouvéan. Parce qu'il y a une histoire à partager, à raconter à ceux qui viennent pour la première fois à Ouvéan, aux nouveaux arrivants. Et ça peut être un ciment, d'avoir quelque chose en commun.
Ça construit une identité collective.
Voilà.
Et les gens ont besoin de ça. Ils peuvent
tout à fait, l'identité.
Voilà. En tout cas, donc, une volonté, alors, en matière d'urbanisme, d'utiliser ces fameux lotissements que n'aime pas Michel Santo, mais aussi de la rénovation urbaine centrale dans les vieilles pierres du village.
Tout à fait. Et évidemment, tout cela sera lié à la finance, hein, parce que on verra dès qu'on arrivera, on verra un petit peu où ça en est, parce que bon, des choses qui nous inquiètent, par exemple, c'est que l'année dernière, il y a eu, sur le budget de l'investissement, seulement 6% de l'investissement annoncé qui a été réalisé. C'est pas beaucoup.
Ah oui,
c'est pas beaucoup.
Donc il y aurait des fonds en réserve, alors, peut-être. Ben,
ou pas.
ou pas.
Mais on verra bien. De toute façon, bon, là, moi, je jette la pierre à personne. Il y a des choix qui ont été réalisés. Nous regardons devant.
Voilà, et bien c'est là-dessus qu'on va conclure. Merci Jean-Paul Chalulot d'être venu nous expliquer à la fois clore cette saison symboliquement et nous expliquer le pourquoi de ce processus qui fait qu'à un moment on a envie de s'engager politiquement et pourquoi pas dans un village, d'en devenir le maire. Merci à vous, donc pas de prochain invité comme je le disais. Bien entendu, nous vous remercions, amis auditeurs, de nous avoir suivis toute cette saison et nous vous donnons rendez-vous pour un Radio Barque dans la note et comme on l'a décrit tout à l'heure, à la rentrée à l'automne. Merci Michel, merci aux auditeurs et à l'an prochain.